France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Frédéric Péchier devant la justice, début du procès fleuve de l'ex-anesthésiste de Besançon ce matin. Il est accusé de 30 empoisonnements, lui dénonce un complot. Nous sommes sur place. On connaît la fin, mais les dialogues restent à écrire. La chute annoncée de François Bayrou cet après-midi à l'Assemblée nationale. Bonjour Sonia Gobry.
Bonjour.
Vous y êtes, tout ça dans une ambiance électrique.
Et oui, journalistes français et étrangers sont déjà installés. Les députés commencent aussi à affluer pour une journée, vous le disiez, qui semble déjà écrite d'avance.
Le déroulé du vote, les enjeux pour la suite, le budget 2026 en préparation, on en parlera longuement avec nos spécialistes. À suivre encore, un attentat à Jérusalem-Est. Ce matin, il y a au moins 6 morts. Le groupe Stellantis qui ralentit sa bascule à l'électrique. Et puis la mort du chanteur de Supertramp, Rick Davies, grand rival de l'autre fondateur du groupe, Roy Hodgson. Nous verrons tout cela en musique. À partir de 13h30, le traumatisme de la Shoah raconté par les descendants, ceux dont les parents ou grands-parents l'ont vécu. L'écrivain Raphaël Sigal et le comédien Eric Feldman sont avec nous. Ils signent en cette rentrée un récit pour l'un, un seul en scène pour l'autre. Deux textes bouleversants. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton à Le Ward dans le Nord.
J'ai aimé mon métier, mais à l'heure d'aujourd'hui, je comprends qu'on ferme les puits de mine. On a été reconnus quand même des grands pollueurs. Hein.
Découverte du plus grand musée minier de France. 13h50, c'est la France. L'abbaye de la Grasse, un mois après l'incendie des Corbières, qui a failli le réduire en cendres. Ce sera avec Cécilia Arbona. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. L'acteur Vincent Elbaz demande Jimi Hendrix à Frédéric Pommier.
Mon père avait découvert Hendrix lors de son premier concert en France. Et donc, il voit ce type jouer avec les dents allongé par terre, donc il me l'a raconté comme un truc complètement épique. Donc ça fait partie de la petite mythologie familiale, on va dire.
Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Les jurés de la cour d'assises du Doubs sont entrés dans un long tunnel ce matin jusqu'à Noël. 3 mois et demi de procès pour juger l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier, accusé d'avoir empoisonné 30 patients, dont 12 sont morts dans 2 cliniques de Besançon entre 2008 et 2017. Tout cela pour nuire à des collègues avec lesquels il était en conflit selon l'accusation. Mais Frédéric Péchier, qui comparaît libre sous contrôle judiciaire, a toujours clamé son innocence et il va avoir l'occasion de s'expliquer. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes au palais de justice de Besançon. Frédéric Péchier est arrivé au tribunal ce matin, entouré d'une fureur de micro.
Oui, par centaines, les victimes, les familles, les témoins de ce procès fleuve et les journalistes, bien sûr, se sont massés dès 8h ce matin devant le palais de justice. Puis, Frédéric Péchier et ses 4 avocats ont fendu la foule vers 9h sans susciter la moindre invective. Serein, a juste dit l'accusé, donnant ainsi le ton à ce procès dont les débats seront extrêmement techniques et dont on ne peut imaginer si la cour d'assises prononcera à la fin l'innocence ou la culpabilité de l'anesthésiste.
Est-ce qu'il a déjà eu la parole ?
Alors non, pas encore. À l'ouverture de l'audience à 10h dans la magnifique salle du Parlement de Franche-Comté réaménagée pour ce procès, sur les bancs des accusés, carrure imposante, chemise bleue décolletée, Frédéric Péchier a en effet l'air serein lors du tirage au sort des 6 jurés de ce procès. Sa défense a tout de même récusé 3 hommes et femmes qui exercent des professions médicales. Peut-être les avocats ont-ils préféré qu'il n'y ait pas de spécialiste de la santé pour trancher le sort de leurs clients qui affirment depuis le début et aujourd'hui encore qu'il n'est pas le serial killer des cliniques de Besançon tel que le présente l'accusation.
Jean-Philippe Degnaud à Besançon pour Inter. Nous vous en parlions dès vendredi dans ce 13-14. Le Crédit Agricole est dans le collimateur de la justice française. Soupçonné de fraude fiscale, la banque aurait pratiqué la fraude dite Koum-Koum, qui permet aux propriétaires d'actions d'échapper à l'impôt sur les dividendes. C'est-il légal ? Eh bien, la banque a accepté ce matin de payer une amende en échange de l'abandon des poursuites. Bonjour Anne-Laure Barral.
Bonjour.
Vous avez suivi cette audience. Le Crédit Agricole accepte de verser 88 millions d'euros.
Oui, il s'agit de solder le passé, ont expliqué à la barre du tribunal les avocats du Crédit Agricole. Mais surtout, pour la première fois, de reconnaître publiquement les faits de blanchiment aggravé, de fraude fiscale aggravée dans cette affaire dite des koum-koum, ou plutôt des arbitrages de dividendes. À savoir, vous l'avez dit Jérôme, quand une banque française prend provisoirement les titres financiers d'un investisseur étranger, pour lui éviter de s'acquitter de la taxe sur les dividendes auprès du fisc français. Non seulement c'est illégal, mais cette fraude aurait fait perdre des dizaines de milliards aux finances publiques de la France en 20 ans. Selon les procureurs du parquet national financier, le Crédit Agricole est loin d'être un acteur majeur de ces pratiques frauduleuses. Il n'avait pas fait de démarchage commercial agressif de ces transactions auprès de ses clients, mais ils ont tout de même trouvé 2500 opérations problématiques pour 50 millions d'euros sur 8 ans. Dès les révélations dans la presse sur le mécanisme des coum-coum en 2018, le Crédit Agricole avait lancé des enquêtes internes et avait également collaboré avec l'administration en acceptant aussi de payer 46 millions d'euros, cette fois dans le cadre de redressements fiscaux. La banque apparaît donc comme la bonne élève des banques mises en cause dans cette affaire, parce qu'il y a également HSBC, Société Générale, BNP Paribas et Natixis. Reste à savoir si cette amende acceptée par le Crédit Agricole les entraînera, elle aussi, vers la voie d'une négociation avec la justice.
Merci Anne-Laure Barral, cellule investigation de Radio France. Venons-en maintenant à l'actualité politique du jour, avec la fin de ce très long feuilleton sans suspense, le vote de confiance sollicité cet après-midi à l'Assemblée nationale par le Premier ministre François Bayrou, son discours à partir de 15h, le verdict des urnes pas avant 19h, ce que le départ probable de François Bayrou va changer pour le budget. On va en parler dans un instant avec Sonia Gobry et Marie Mollet, service politique, et Claire Chaudière, service économique de France Inter. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour Jérôme.
Avant cela, je voudrais qu'on écoute quelques paroles de Français sur ce vote, parole recueillie ces dernières heures à Metz et au Mans.
J'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner. J'ai bien envie que Bayrou tombe, j'ai bien envie d'aller dans la rue le 10.
J'espère qu'il ne sera plus là parce que c'est un pourri. Et puis le président, c'est pareil, hein, c'est la même clique. C'est qu'on a eu le moyen d'acheter une maison parce qu'on a fait fructifier nos heures de travail. On s'aperçoit qu'il faut faire quelque chose. Hein. Mais de toute façon, on est pour la manifestation.
Autre parole, Cyril Sauva, président de la Fédération du bâtiment, dans les Bouches-du-Rhône, lui craint une nouvelle dissolution.
Localement, il y a un vrai impact de ces revirements multiples politiques et surtout de l'instabilité, c'est que le logement ne redémarre pas. Et ça, c'est un vrai drame localement au niveau sociétal, et c'est pas que notre métier. Car maintenant, on a vraiment des personnes âgées qui n'ont plus les moyens de se loger, on a des étudiants qui renoncent à leurs études car ils ne trouvent pas de logement dans la ville où ils veulent faire leur diplôme, on a des travailleurs pauvres qui habitent dans leur voiture. Donc maintenant, si le logement définitivement ne redémarre pas, nous sommes face à un vrai krach social.
Voilà comment ces Français regardent l'Assemblée nationale. Pression recueillie par ici Maine, ici Provence et ici Lorraine. Sonia Gobry, je me tourne vers vous, vous êtes à l'Assemblée nationale. Comment va se dérouler cet après-midi ?
Eh bien, dans moins de 2 heures, à 15h, François Bayrou montera à la tribune dans l'hémicycle pour sa déclaration de politique générale dans laquelle il engagera la responsabilité de son gouvernement. Ce discours sera suivi de ce qu'on appelle les explications de vote. Les 11 groupes parlementaires enverront un orateur pour expliquer leur position. Puis François Bayrou reviendra à la tribune pour répondre à ces déclarations. Place ensuite au vote. Les députés se rendront pour cela dans l'un des 3 salons qui jouxent l'hémicycle. Difficile de donner l'heure exacte du résultat, puisque François Bayrou n'a pas de limite de temps pour ses prises de parole. Selon les estimations, le verdict tombera entre 19h et 20h. Pour renverser le gouvernement, pas besoin d'atteindre la majorité absolue de 289 voix. Il suffit qu'il y ait plus de votes contre que de pour. Et la défaite s'annonce déjà cinglante pour François Bayrou.
Alors, Marie Mollet, on a compris qu'on connaît à peu près l'issue de ce vote, le renversement de François Bayrou. Il y a plus d'interrogations en fait sur le discours que sur l'issue.
Oui, en janvier, lors de son discours de politique générale, la première, il avait fait voler ses feuilles et chercher ses mots pour vanter le dialogue entre les forces politiques sur le budget, entre les syndicats. 9 mois plus tard, le dialogue n'a jamais eu lieu. Et tout à l'heure, il sera tenté de mettre en scène son acte de bravoure, comme il le décrit sur les plateaux télé, son geste sacrificiel, qui, pense-t-il, sera retenu par l'histoire. Mais dans son camp, on espère qu'il ira au-delà du constat et de l'accusation des autres forces politiques. François Bayrou est capable de grands discours, dit un proche. Il faudrait au moins cela, dit-il, pour restaurer un peu l'image de son mandat. Quand une ministre redoute une redite de sa tournée d'adieu, une sorte de best-of. Ce soir, il a déjà convié justement ses ministres à Matignon pour un pot d'adieu. Même si François Bayrou ne compte pas disparaître et veut peser dans la formation des prochains gouvernements, le combat continue dès le lendemain, nous disait-il vendredi dernier.
Après François Bayrou, Sonia Gobry, ce sont les groupes politiques de l'Assemblée qui vont avoir la parole. Est-ce qu'on sait qui va s'opposer et qui va le soutenir ?
Oui, alors déjà, selon les estimations, au moins 350 députés voteront contre la confiance à François Bayrou. Toute la gauche, le RN, l'UDR d'Éric Ciotti, les indépendantistes de Lyotte et aussi des députés, les Républicains. Leur chef de file, Laurent Wauquiez, leur laisse une totale liberté et donc, pour une vingtaine d'entre eux, ce sera soit l'abstention, soit le vote contre, selon des sources parlementaires qui expliquent qu'ils ne veulent pas paraître pro-macronistes alors qu'ils sont menacés par le RN dans leur circonscription. Résultat, François Bayrou n'a même pas tout le socle gouvernemental derrière lui. Il se prépare donc à remettre sa démission à Emmanuel Macron, selon un de ses proches, ce soir ou demain matin.
Une démission dans de telles conditions, c'est rarissime. Sous la Ve République, il y a eu Georges Pompidou, 1962, renversé dans un contexte où Charles de Gaulle voulait arriver à l'élection du président de la République au suffrage universel. Plus près de nous, il y a eu 2024, Michel Barnier sur le projet de sécurité sociale. On est donc encore dans la même situation. Marie Mollet, Emmanuel Macron va devoir choisir un nouveau Premier ministre. Est-ce qu'on sait ce qui se prépare?
En tout cas, on entreaperçoit le profil possible d'un successeur à Matignon. D'abord, quelqu'un de plus jeune. À l'Élysée, on pense qu'il y a eu par deux fois un problème générationnel. Michel Barnier, 74 ans. François Bayrou, 74 ans. Qui aurait souffert de ne pas sentir comprendre la nouvelle génération de leaders politiques, notamment au PS. Ensuite, quelqu'un qui soit compatible avec les socialistes, capable de négocier avec eux un accord de non-censure, pas d'alternative, car le RN a raidi sa position et fait monter les enchères. Enfin, quelqu'un qui ne remette pas en question les totems macronistes, hausse d'impôts ou flexibilisation du travail, pas de hausse d'impôts ou flexibilisation du travail. Cette fois, le président veut vraiment aller vite, nous répètent les ministres, pour retrouver vite un paravent et un fusible. Même si cette promesse a déjà été faite par le passé sans jamais être respectée. Emmanuel Macron qui pourrait s'adresser dès demain aux Français sans attendre.
Et le premier dossier sur le bureau de ce futur Premier ministre, le budget 2026. Le plan de François Bayrou, c'est 44 milliards d'euros d'économies ont précipité sa chute. Claire Chaudière, on vous retrouve. Mais c'est toujours cette copie qui est sur la table.
Et oui, et aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est cette même copie avec le dispositif de l'année blanche, avec la baisse d'un certain nombre de dépenses sociales et de santé, avec un dispositif de lutte contre l'optimisation abusive des patrimoines assez éloignés en l'état de la taxe Zucman, voulue notamment par les socialistes. C'est bien ce projet qui a été envoyé par les services de Bercy au Conseil d'État en fin de semaine dernière pour permettre à un budget d'être voté dans les temps avant la fin de l'année. Au regard du calendrier légal budgétaire, explique-t-on, il était impossible d'attendre. Mais Bercy l'assure, cette copie n'est plus qu'une base technique de discussion. Tout pourra être modifié ensuite au Parlement. Dans l'entourage des deux ministres, Éric Lombard et Amélie de Montchalin, on est d'ailleurs très clair, l'ampleur de l'effort, les 44 milliards d'euros, c'est négociable. Beaucoup de choses sont discutables, des portes sont à ouvrir, des concessions inévitables, sauf le point d'atterrissage, un déficit réduit à 3% en 2029 et pas 2032, comme le propose le PS. Deux ministres à Bercy qui, sur le papier, sont aujourd'hui sur un siège éjectable, mais qui s'affichent comme potentiellement déjà à la manœuvre ou fin prêt pour mener ces négociations.
Merci à toutes les trois pour ces informations. Claire Chaudière, Marie Mollet, Sonia Gobry à l'Assemblée, avec les moyens techniques de Mickaël Simon. On va vous retrouver ce soir dans l'édition spéciale de France Inter autour de Fabienne Sintès et de ses invités entre 18h et 20h en direct de l'Assemblée nationale. Et pendant ce temps-là, les préparatifs du mouvement Bloquons tout après-demain se poursuivent. Des appels à bloquer le pays lancés par des collectifs qui se réunissent depuis plusieurs semaines, sans qu'on sache d'ailleurs quelle sera l'ampleur de la mobilisation. On en sait plus en revanche sur les moyens d'action. Parmi ceux qui reviennent le plus souvent, il y a le boycott de la carte bleue. Après-demain, tout cela nous dit-on pour pénaliser les banques. Plusieurs restaurateurs par exemple s'y associent. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Les commerçants paient des frais à chaque achat par carte bancaire. Comment ça marche?
Alors nous consommateurs, on ne se rend pas compte, mais oui, dès qu'on utilise notre carte bancaire, les commerçants ont des frais versés ensuite aux banques et réseaux de paiement comme CB, Visa ou encore Mastercard. Il représente environ 0,5% de la somme payée par le client, soit par exemple 15 centimes si vous dépensez 30 euros dans un magasin de vêtements. Cette somme comprend ce que l'on appelle la commission d'interchange, ce que la banque du commerçant reverse à celle du client. Il y a des frais de réseau, ce qui permet d'assurer la transaction. Et enfin, il faut ajouter la marge de la banque du commerçant. D'après la Fédération du prêt-à-porter féminin, pour une boutique de taille moyenne, cela représente une perte de l'ordre de 1500 à 3000 euros par an. Des sommes relativement faibles, explique son président Yann Rivoallan, qui d'ailleurs ajoute au sujet du 10 septembre.
ça ne changera strictement rien si les gens payent uniquement en espèces plutôt que de payer avec leur carte bleue. Parce que je crois à ce moment-là qu'on verra au contraire l'utilité de payer avec sa carte bancaire et comment ce type de paiement est devenu majoritaire dans notre pays.
Il est pratique pour le client, plus sécurisant pour les commerçants car évite d'avoir d'importantes sommes en liquide dans ses caisses et qui, oui, est privilégié. Selon la Banque de France, l'an dernier, 48% des paiements se sont faits par carte bancaire contre 43% en espèces.
On verra si ce mouvement prend en tout cas autour de la carte bleue. Merci pour ces explications. Luc Chemla.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Le ministre de la Défense israélien venait à peine d'adresser un dernier avertissement, pour reprendre ses mots, au Hamas ce matin. Le sommant de se rendre et de libérer les otages sous peine d'être anéanti, qu'un attentat était commis à Jérusalem-Est, une attaque à l'arme à feu qui a visé une station d'autobus. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Jérusalem, il y a au moins 6 morts. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu sur place.
Oui, il était accompagné du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. La guerre se poursuit, y compris à Jérusalem, a proclamé Benjamin Netanyahou. Alors Jérôme, c'est la fusillade la plus meurtrière à Jérusalem depuis janvier 2023. Une femme et 5 hommes ont perdu la vie et le pronostic vital de plusieurs blessés est engagé. L'attaque s'est produite au carrefour de Ramot, un quartier ultra-orthodoxe israélien, dans la partie orientale de la ville. 2 autobus bondés ont été pris pour cible par 2 assaillants, armés notamment d'un pistolet mitrailleur de type Carlo. C'est une production de fabrication artisanale du Carl Gustav M45. Les 2 hommes ont été abattus par un militaire et par des passants qui étaient armés. Selon la police, ils étaient tous deux originaires de Cisjordanie et en ce moment, l'armée israélienne a établi des barrages et encerclé 2 villages palestiniens proches de Ramallah et des perquisitions sont en cours.
Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem. Israël qui a par ailleurs accusé ce matin l'Espagne de mener, je cite, une campagne antisémite et qui annonce interdire d'entrer au pays la vice-première ministre espagnole. Bonjour Mathieu de Taillac.
Bonjour.
Vous êtes notre journaliste à Madrid. Mathieu, c'est une réponse aux mesures qui ont été annoncées ce matin par le gouvernement socialiste espagnol pour, je cite, mettre fin au génocide à Gaza.
Oui, Pedro Sanchez a commencé par une introduction où il mesurait particulièrement ses mots. Il a notamment rappelé la souffrance du peuple juif au long de l'histoire. Il a cité l'Holocauste. Pedro Sanchez.
El gobierno de España y el conjunto de la sociedad española ha condenado desde el primer día los ataques.
Le gouvernement espagnol et l'ensemble de la société espagnole ont condamné dès le premier jour les attentats terroristes et les enlèvements commis par le Hamas. Mais c'est une chose de protéger son pays, de protéger sa société, et une autre très différente de bombarder des hôpitaux, de tuer par la faim des enfants innocents. Une attaque que la rapporteure spéciale des Nations Unies et la majorité des experts qualifient désormais de génocide.
Voilà, Sanchez a ensuite énoncé 9 mesures, notamment l'interdiction par décret des ventes et des achats d'armes à Israël, l'interdiction du transit par l'Espagne des bateaux et des avions transportant du combustible ou des armes à destination d'Israël, le refus d'admettre sur le sol espagnol toute personne ayant commis des crimes de guerre à Gaza, ou encore le renforcement de l'aide humanitaire apportée aux Palestiniens.
Mathieu, autre conséquence de cette guerre à Gaza en Espagne, les militants pro-palestiniens ciblent depuis plusieurs jours l'équipe cycliste Israël Première Tech qui dispute en ce moment le Tour d'Espagne. Il y a eu de nouveaux incidents ce week-end, à tel point qu'on se demande si la Vuelta va pouvoir aller à son terme.
En tout cas, c'est une Vuelta assez chaotique. Les drapeaux palestiniens sont présents à toutes les étapes ou presque. Il y a aussi effectivement une série d'incidents qui ont eu un impact sur la compétition sportive elle-même. Jeudi dernier à Bilbao, la course a été interrompue à 3 km de la ligne d'arrivée. Des activistes avaient envahi la chaussée et forcé des coureurs à s'arrêter. Puis hier, il y a eu 2 chutes, là aussi à cause d'une invasion du parcours par un activiste. Une dizaine de personnes ont été arrêtées. Et outre ce soutien aux Palestiniens, ces activistes effectivement protestent contre la participation de l'équipe Israël Première Tech. Cette dernière a été invitée par la direction de la Vuelta à se retirer pour, je cite, la sécurité de tous. Elle s'y refuse. Elle a en revanche enlevé le mot Israël des maillots et du bus qui est escorté en permanence par la police espagnole.
Merci Mathieu de Taillac en direct de Madrid pour Inter. 2035, c'est l'échéance fixée par l'Union européenne pour le passage à la voiture électrique. À cette date, les véhicules thermiques neufs seront interdits à la vente sur le continent. Mais depuis quelques mois, une partie des constructeurs conteste cette échéance. L'objectif n'est n'est pas réaliste, a redit ce week-end le nouveau patron de Stellantis, Antonio Filosa. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Et au salon de Munich ce matin, le groupe annonce qu'il revoit ses objectifs électriques à la baisse. Il s'était fixé 100% de ventes en électrique d'ici 2030. Eh bien, ce ne sera pas le cas.
Non, car les choses ne se sont pas passées comme prévu. Stellantis, mais aussi Renault, Volvo, Mercedes avaient annoncé passer au tout électrique en 2030, soit 5 ans avant la date butoir fixée par l'Union européenne. Pourquoi ? Pour des raisons industrielles essentiellement. Il est en effet coûteux de développer plusieurs chaînes de production, une pour les moteurs thermiques, une pour les hybrides, une pour les électriques. Par ailleurs, multiplier les modèles à vendre chez les concessionnaires auto a un coût. L'idée était donc de réduire la durée de transition, mais les constructeurs ont été confrontés à une baisse des ventes de voitures électriques dans toute l'Europe, en raison notamment de la diminution des aides à l'achat, aides supprimées purement et simplement en Allemagne, revues à la baisse en France, aussi bien le montant que le nombre de personnes éligibles. Résultat, Stellantis décide de finalement rallonger la période de transition, et tant pis si ça coûte plus cher, estime le spécialiste du secteur automobile au sein du cabinet SIA Arnaud Aimé. Parallèlement, les constructeurs misent sur des modèles premier prix, autour, voire à moins de 20 000 euros pour relancer les ventes, qui ont progressé au mois d'août, mais qui ne représentent encore qu'un peu plus de 15% des ventes en Europe. L'objectif de 100% de voitures électriques en 2035 semble bien difficile à atteindre. Les experts du secteur tablent plutôt sur 75 à 90%.
Merci Agnès Soubiran. J'ajoute que ce matin, le gouvernement annonce une prime complémentaire exceptionnelle de 1 000 euros à partir du 1er octobre pour l'achat d'une voiture électrique, mais équipée d'une batterie européenne. C'est la condition. Soyez vigilants si vous circulez la nuit prochaine dans le nord de la Lorraine. Météo France place la Moselle et la Meurthe-et-Moselle en vigilance orange, pluie, inondation à partir de 21h. Il s'agit donc de ces deux départements dans lesquels on peut s'attendre à des cumuls de pluie très importants. Prévision complète dans une dizaine de minutes. En Haute-Savoie, c'est un éboulement qui a frappé les esprits ce week-end. Au moins 12 000 mètres cubes de roche se sont décrochés de la montagne au cirque du fer à cheval. Depuis, le service de restauration des terrains en montagne est sur place pour vérifier la stabilité des lieux. Pour l'instant, pas d'explication officielle, mais peut-être des pistes et en tout cas un volume de roche éboulé qui interroge Ludovic Ravanel. Il est chercheur au CNRS et géomorphologue.
Exceptionnel. On a parlé d'une douzaine de milliers de mètres cubes, je pense qu'on est largement au-delà, peut-être 20 000, peut-être 30 000, peut-être 40 000. C'est des événements dont on a malheureusement de plus en plus l'habitude dans les contextes de permafrost. Là, on est nettement plus bas en altitude, on est complètement en dehors des zones affectées par le permafrost, ce qui en fait un événement quand même assez intéressant du point de vue scientifique. Il n'y a pas d'explication qui ressort d'emblée, donc il va falloir qu'on réfléchisse à travers des données météo, à travers également une expertise de la cicatrice. Généralement, après la déstabilisation d'un volume de ce type-là, on a toujours des réajustements, on appelle ça des réajustements mécaniques, c'est-à-dire des blocs qui de toute façon doivent tomber du fait de l'état de la paroi.
Le chercheur au CNRS Ludovic Ravanel au téléphone d'ici Pays de Savoie. Un conflit entre un club et une sélection nationale au sujet d'un joueur, c'est un grand classique des sports collectifs et particulièrement du football, car les clubs qui paient ces joueurs apprécient peu de voir leur star revenir blessé d'un match avec l'équipe nationale. Mais là, l'explication de texte est très violente depuis vendredi soir entre le Paris Saint-Germain d'un côté et le sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps, de l'autre. Depuis, la blessure contre l'Ukraine de deux Parisiens, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, d'ores et déjà forfait pour les prochaines semaines. Bonjour Xavier Monferrand.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Le sélectionneur national Didier Deschamps tenait une conférence de presse ce matin que vous avez suivie avec attention. Il reste sur ses positions, Didier Deschamps ?
Oui, il reste sur ses positions et c'est peu dire qu'il était attendu. Didier Deschamps qui a paru fermé, assez tendu, qui marchait un peu sur des œufs hein, face aux journalistes. Et il a tenu à clarifier sa pensée dès la première question.
Le PSG, c'est pas notre adversaire. Ça l'a jamais été. Les clubs n'ont jamais été, même si on a des intérêts. Et c'est normal, j'étais de l'autre côté de la barrière à un autre moment. Ils peuvent diverger, mais notre seul adversaire, c'est l'Islande. Donc. Et c'est demain.
Voilà, depuis vendredi, vous l'avez dit, la pression est forte. Hein, la polémique, elle enfle, alimentée par le PSG, qui reproche donc à Didier Deschamps d'avoir fait jouer Ousmane Dembélé, qui s'est blessé à la cuisse droite, alors qu'il est arrivé au rassemblement déjà affaibli à la cuisse gauche. Il y a eu des courriers à la Fédération française, à la FIFA, le club parisien qui réclame carrément un nouveau protocole médical. Mais Didier Deschamps, lui, il a pu compter aussi sur son vice-capitaine, Aurélien Tchouaméni, présent en conférence de presse ce midi, qui a voulu recentrer un peu les débats.
Je pense que
chacun défend ses intérêts. Mais à la fin de la journée, c'est le joueur qui donne aussi ses sensations. S'il estime que c'est compliqué pour lui de jouer parce que il y a un risque très très élevé, le coach il a toujours été conciliant et voilà, il est pas bête. En tout cas pour nous à Madrid, il y a toujours une bonne communication entre les deux parties.
Voilà, le joueur doit prendre ses responsabilités. Ousmane Dembélé, il voulait jouer et puis le milieu de terrain du Real Madrid en profite aussi pour égratigner le PSG, sous-entendu entre le Real et les Bleus. Ça se passe très bien.
Ça se passe mieux, ouais.
Pour cette fois en tout cas, mais c'est vrai que ça illustre bien la pression de plus en plus forte que les clubs mettent sur les sélections nationales qui ont tendance à s'effacer faute de pouvoir payer les joueurs eux-mêmes.
Xavier Monferrand, France-Islande, demain soir, c'est au Parc des Princes, deuxième match de qualification pour la Coupe du Monde qui aura lieu en juin 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. C'est une rivalité comme il y en a souvent. Dans les groupes stars, on a connu Lennon-McCartney chez les Beatles, et bien dans le groupe Supertramp, il y avait les fans de Rick Davies et puis ceux de Roger Hodgson, tous deux fondateurs et compositeurs. Et bien on a appris ce matin la disparition de Rick Davies à l'âge de 81 ans. Bonjour Mathieu Culeron.
Bonjour.
Bon, il était le chanteur principal du groupe, mais les fans, eux, étaient partagés entre les deux.
Oui, et ce n'est pas si évident que ça de reconnaître leur voix, car elles étaient mêlées. Un distinguo qui est d'autant plus compliqué à faire que Roger cumule 34 chansons de Supertramp en tant que chanteur principal et 28 pour Rick Davies. Petit quiz sur qui chante quoi dans Supertramp avec ce premier tube. Was it early morning yesterday?
I was up before the dawn. Jérôme, Rick Davies?
Ah, et absolument. Ah. Goodbye Stranger, un titre composé et chanté par Rick Davies sur le sixième album de Supertramp, Breakfast in America. Roger qui fait des harmonies de voix, mais c'est bien un morceau de Rick Davies au micro et au clavier, autre classique.
Facile. Jerry Roger Hodgson.
Absolument, Dreamer, un titre de 74 sur l'album Bloody Well Right, un titre composé et chanté par Roger Hodgson. Petit chef-d'œuvre qu'on attribue donc aux frères ennemis de Rick. Et on termine à présent par ce titre morceau de Supertramp.
Davis.
Eh bien, Just a Normal Day est un titre de 74 sur Crisis White Crisis et ce sont les deux voix des deux compositeurs qui s'entremêlent. Et c'est peut-être un peu ça la morale de cette histoire. Que serait Supertramp sans Roger ou sans Rick? Une voix aiguë pour Roger et cette voix grave qui vient de s'éteindre, celle de Rick Davies, cofondateur de Supertramp.
Pourquoi choisir entre les deux, au fond? C'est ça le message.
Oui, exactement. Moi, j'ai une petite préférence, mais je ne vous la dirai pas.
Je ne vous la dirai pas. Merci Mathieu Culeron pour cet hommage à Rick Davies, l'un des deux cofondateurs du groupe Supertramp qui nous a donc quitté il y a quelques heures. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, ils sont les enfants cachés de la Shoah, car leurs parents, leurs grands-parents l'ont vécu. Mais eux, comment vivent-ils avec cette mémoire? L'écrivain Raphaël Sigal et le comédien Eric Feldman sont nos invités. Ils signent deux textes bouleversants, l'un publié, l'autre joué sur scène. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton, nous sommes à Le Ward, dans le Nord. Nous passons cette semaine dans le plus grand musée de la mine de France. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cécilia Arbonin et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Cécilia, un lieu qui fait l'actualité, nous sommes dans l'Aude avec vous.
Épargné par l'incendie, le terrible incendie du massif des Corbières. Cet été, on parlera de l'abbaye de la Grâce, où les chanoines ont logé et nourri 150 pompiers.
Et avec vous, Frédéric, un acteur.
Vincent Elbaz, qu'on pourra voir mercredi au cinéma dans le film Une place pour Pierrot. Et avec lui, nous écouterons la voix et la guitare de Jimi Hendrix. La chanson, ce sera Hey Joe.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Inter, 15h, Fabrice Drouel.
Ce lundi, je vous raconte le concile de Vatican II, quand l'Église catholique tente une révolution sous l'égide d'un pape qu'on croyait de transition, Jean XXIII.
Affaires sensibles, tous les jours à 15h sur France Inter.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Un temps perturbé aujourd'hui du sud-ouest au nord-est.
Oui, on retrouve notre perturbation avec des pluies orageuses parfois soutenues, un peu de grêle possible, du vent. Les pluies se renforcent ce soir et cette nuit dans l'est. Les quantités deviendront parfois très importantes d'ici demain matin, surtout sur Moselle et Meurthe-et-Moselle, placées en vigilance orange jusqu'à demain matin 6h. En allant vers le nord-ouest, un ciel plus changeant revient avec des éclaircies plutôt belles, juste quelques averses du nord de la Bretagne au Pas-de-Calais et puis de la basse vallée du Rhône vers la Côte d'Azur, le soleil est voilé avec un risque d'orage tout de même cet après-midi sur les Alpes et la montagne Corse. Côté thermomètre, ça baisse bien. Après l'été d'hier, on attend 19 à 26 degrés le plus souvent cet après-midi, 26 à 30 encore en Méditerranée. Et puis demain, on va se retrouver entre deux perturbations, une qui quittera le pays par l'est et une autre qui arrivera par la Bretagne.
Merci Élodie Calac. Il n'y a pas que la météo politique qui est perturbée en ce lundi 13h30.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Comment se transmet la mémoire de la Shoah, le génocide des Juifs d'Europe par l'Allemagne nazie 80 ans après la libération des camps? Malgré la monstruosité des crimes, est-elle menacée par l'oubli? Et que reste-t-il de cette mémoire chez les descendants des survivants, ceux dont les parents, les oncles, les tantes ou les grands-parents ont été traqués puis ont été déportés dans les camps ou y ont échappé de peu? Ces questions, deux textes écrits quasiment en même temps, y apportent deux réponses. Voilà pourquoi nous avons souhaité inviter leurs auteurs pour confronter leur point de vue. L'un est un récit intitulé « Géographie de l'oubli » et signé Raphaël Sigal. Il est publié en cette rentrée littéraire aux éditions Robert Laffont. Bonjour Raphaël Sigal.
Bonjour, merci de votre invitation.
Merci d'être avec nous, merci de l'avoir accepté. L'autre texte est donné au théâtre en ce moment. La pièce s'intitule « On ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie » signé Eric Fellman. Bonjour Eric Fellman.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce seul en scène, vous en êtes aussi l'interprète. C'est au Théâtre du Petit Saint-Martin à Paris jusqu'au 26 octobre. 01 45 24 7000 pour nous rejoindre. Vous connaissez le chemin, je lis aussi vos messages via l'application Radio France. Raphaël Sigal, Eric Fellman, est-ce que vous vous connaissiez? Est-ce que vous avez pu prendre connaissance du texte de l'autre? Est-ce que vous avez été surpris de voir que quelqu'un d'autre, en même temps que vous, avait fait le même cheminement, finalement, avec des histoires qui sont assez proches, assez comparables?
J'ai Raphaël entendu Sigal. Parler du spectacle d'Eric Fellman en juin dernier, lorsqu'il en a donné les premières représentations par quelqu'un qui travaillait chez Robert Laffont, qui avait travaillé sur le texte. Et j'ai été surpris en découvrant le texte ce week-end, pour venir ici, effectivement, d'une parenté étonnante entre les textes.
Vous vous racontez l'histoire de votre grand-mère, qui a échappé à la déportation, mais vous le racontez comme elle vous l'a donné, avec ses mots à elle. Il n'y a pas d'archives et vous n'avez interrogé personne d'autre.
Voilà, c'est un livre où je me suis refusé à faire toute enquête. C'est un livre où je voulais vraiment ausculter ce que ma grand-mère avait déposé en moi. Et elle a déposé, à vrai dire, pas grand-chose. Elle est surtout restée dans un silence sur son enfance. Et j'ai essayé avec ce livre de rendre justice à ce silence. Et donc de faire un devoir de mémoire à travers l'oubli qu'elle m'a communiqué.
L'oubli, le silence, ce sont des mots qui vous parlent, Eric Fellman?
Oui, bien sûr, tout le silence, les non-dits, les choses qui se transmettent malgré soi, oui, tout à fait, oui, c'est des mots qui des mots et des mots, oui.
Vous nous parlez de l'histoire de votre père, de vos oncles, de vos tantes qui ont échappé à la déportation, ce n'est pas le cas d'une partie de votre famille.
Oui, c'est vrai, mes parents, mes oncles et tantes étaient des enfants cachés, du côté de mon père comme du côté de ma mère. Là, j'évoque plus le côté de mon père. Ouais. Et il y a eu aussi des déportations. Il y a eu aussi ceux qui étaient restés en Pologne et qui ont été exterminés dans le ghetto ou dans les camps. Et je raconte en fait comment ce traumatisme, puisque c'est des enfants qui ont une enfance pas normale du tout, mais qui après la guerre se sont pas dit que c'était une enfance pas normale, c'est-à-dire que finalement, eux, ils voulaient reprendre la vie comme si de rien n'était, mais au fond, les blessures, elles étaient là et elles se sont transmises. Et voilà, j'évoque la transmission de ces blessures, de ces traumatismes, et j'essaye de le faire avec humour parce que sinon, ça serait trop
alors,
triste.
Effectivement, et vous nous expliquez à quel point la transmission, elle peut se faire de manière étonnante. Il y a cette scène, Eric Fellman, aussi stupéfiante que drôle, où vous nous racontez que votre oncle Gilbert, en maillot de bain, un été, s'apprête à plonger dans la piscine des vacances. Il vous regarde, vous avez 11-12 ans, voilà. Et il vous lance « Ah mais tu l'as pas connu toi, tonton Hitler !» Et hop, il plonge dans la piscine. Ouais. Et vous avez une dizaine d'années. Que cet oncle Gilbert, il a vu sa mère et sa grand-mère arrêtées, envoyées en déportation. Exactement. Elles n'en sont jamais revenues.
Absolument. Oui, tout à fait. Bah, c'était son humour, donc un humour vraiment particulier que j'essaye d'ailleurs un petit peu de transmettre aussi. Peut-être que c'est un peu ce qu'on appelle l'humour juif, ou en tout cas, ou peut-être aussi l'esprit un peu du yiddish, c'est-à-dire où il y a à la fois les larmes et le rire, quoi. Les deux vont de pair dans cet humour-là, je crois.
Ça veut dire qu'au-delà de ces allusions, on n'en parlait pas à la maison?
Non, on n'en parlait pas beaucoup. Hein. Vraiment, il a fallu poser beaucoup de questions pour que les mots viennent. Mais il n'y avait pas une volonté de dire... Mais c'était tout le temps présent. C'est-à-dire que dans la bibliothèque de mes parents, il n'y avait que des livres sur le nazisme, sur l'antisémitisme, sur Israël. Quoi. C'était donc, de toute façon, c'était là. Et quand il y avait une émission de radio ou une émission de télé, il fallait la regarder. Oui, c'était quand même cette ambiance-là. Quoi. Oui.
Raphaël Sigal, même chose. Est-ce que chez vous, la Shoah était présente dans les mots, ou alors à partir de réflexions, d'objets, de sentiments?
Alors moi, j'ai grandi à une génération après Eric, et il me semble que une génération d'écart. Et oui, la Shoah était extrêmement présente en tant qu'histoire collective. C'est-à-dire que l'histoire de la Shoah, l'histoire avec sa grande hache, comme dit Georges Perec, était là, s'invitait à la table, s'invitait dans les bibliothèques, elle était présente à la télé. Mais derrière cette histoire, il y a les histoires individuelles qui, là, étaient beaucoup plus compliquées et qui étaient beaucoup plus tues et cachées.
Sylvie est avec nous, 01 45 24 7000. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Vous nous appelez de Saint-Maur-des-Fossés, nous vous écoutons.
Alors en fait, ce que vos intervenants viennent de dire, ça me touche énormément. En fait, je suis une arrière-petite fille de déportée. Vous m'entendez ?
Nous vous entendons parfaitement, Sylvie.
Donc, je suis une arrière petite fille, parce que j'ai un écho, donc c'est pour ça que je vous demande ça. Donc, je suis une arrière petite fille de déportée. En fait, tout ce que vous dites là me touche énormément, parce qu'en fait, c'est vrai que on avait des informations très fragmentaires, avec un silence sur tout ça. Un silence terrible.
Dans la famille ?
Dans la famille, exactement. Et en fait, il y a assez peu de temps, on a fait un album généalogique, mon frère, ma belle-sœur et moi, et on a découvert des choses sur la famille que j'ignorais complètement. Mmh.
Et vous avez eu vous avez éprouvé le besoin de faire cet arbre généalogique, de revenir vers ses racines.
Moi, j'avais ce besoin chevillé au corps depuis très très longtemps. Mmh. Donc c'était quelque chose dont j'avais beaucoup de mal. Enfin, déjà mes grands-parents, ils n'en parlaient pas. Puis moi j'étais peut-être trop jeune, donc c'est quelque chose au sujet duquel je ne les interrogeais pas.
Merci Sylvie, et merci pour votre témoignage. Je veux juste qu'on laisse réagir Eric Feldman et Raphaël Sigal, peut-être sur ce qui a été le déclencheur pour vous. Pourquoi écrire maintenant, Raphaël Sigal? Est-ce que ça fait écho aussi à l'actualité, ou bien c'est un cheminement personnel?
Moi, j'ai commencé à écrire ce livre il y a 10 ans. Donc, et j'ai commencé à écrire ce livre au moment où ma grand-mère, de qui j'étais proche et dont je ne connaissais pas l'histoire, commençait à s'enfoncer dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, elle commençait à oublier. Et je me suis dit, ça a fait écho en moi, je me suis dit, je vais essayer de reconstituer son histoire maintenant qu'elle ne peut plus la raconter. Et donc, j'ai pris en charge son histoire au moment où elle-même ne pouvait plus s'exprimer, finalement. Et symboliquement, j'ai hérité donc de cette parole, et je me suis substitué à elle d'une certaine manière, avec amour, avec bienveillance. C'est pour cela que j'ai pas voulu faire d'enquête, j'ai voulu vraiment ausculter ce qu'elle avait déposé en moi pour pouvoir aussi respecter le fait qu'elle s'était tue.
Vous avez tout de même un support, ce texte que rédige votre grand-mère, donc c'est Suzanne, en 2013, elle a 86 ans. Le texte se termine ainsi: je suis restée très allemande, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que mon papa m'avait dit que Hitler ne durerait pas, hélas il s'est bien trompé et des millions d'êtres sont morts à cause de lui. La guerre est finie, oui peut-être, mais moi, je ne peux pas l'oublier.
C'était la grande surprise, c'était l'événement principal qui m'est arrivé lorsque j'ai écrit ce texte. Je me suis rendu compte, en fait, qu'elle écrivait également sa vie. Le texte qui est publié dans mon livre et à la fin reproduit dans son intégralité est un texte écrit par Suzanne Zaza, ma grand-mère, à 86 ans, alors qu'elle a Alzheimer. Et on voit bien comment la mécanique du trauma marche, en réalité. C'est-à-dire qu'elle s'exprime avec... peu de moyens, et finalement tous ses souvenirs tournent autour de Hitler. Finalement, c'est le personnage principal de son histoire, et lorsqu'elle est à la fin diminuée, on voit qu'elle retourne sur le lieu de son enfance qui est marqué, le lieu qui est l'Allemagne, et qui est marqué par ce trauma dont elle s'est...
Malgré la maladie, finalement, il y a toujours cette mémoire.
C'est ce qui subsiste, et c'est ce qui a subsisté chez tous mes grands-parents, il me semble. À la fin de leur vie, ils parlaient beaucoup de cela, oui.
Éric Fellmann, vous avez une longue et riche carrière de comédien. Pourquoi dire ce texte ? Pourquoi l'écrire et le dire maintenant ?
Oui, je ne savais pas vraiment que j'allais parler de ça quand j'ai commencé à écrire. Je l'ai écrit en partant d'improvisation d'acteur, parce que c'est mon métier, en faisant quelques improvisations face à Olivier Veillon, qui signe la mise en scène. Uh-huh. C'est tout ça qui est sorti. Alors, on a filmé 3-4 improvisations, et après j'ai dit « Ok, je vois ce qui sort, il faut que je tire tous ces fils-là, mais parce que c'est des choses... auquel j'avais beaucoup réfléchi, auquel je m'étais beaucoup confronté, qui m'avait fait beaucoup souffrir. Mais ce que je veux dire, une chose importante, c'est-à-dire que c'est pas, j'écris pas ce texte pour raconter mon histoire en tant que c'est mon histoire et qu'elle est intéressante. Elle n'a d'intérêt que si que le spectateur ou la spectatrice ça puisse lui parler aussi, que uh-huh. ça fasse écho à sa propre histoire, à ses propres traumas qui sont pas forcément ceux-là. Et c'est très important parce que ça, c'est très important aussi aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. Je voudrais pas que des gens pensent, parce que je sais qu'il y en a qui pensent qu'on nous rabâche les oreilles avec la Shoah aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza et tout. Bien sûr que ce qui se passe à Gaza, c'est une horreur absolue. Mais moi, quand je parle de cette horreur qu'a été la Shoah, je parle aussi de toutes les horreurs, parce que je pense aussi aux conséquences que vont avoir tous les massacres dans le monde, à Gaza et partout ailleurs, et en Ukraine, et depuis toujours. Et vraiment, c'est universel. C'est très important de préciser ça.
Et vous racontez à quel point le traumatisme qu'a vécu votre père, et qu'on peut rapprocher à d'autres traumatismes liés à d'autres génocides, et vous le dites, ou à d'autres massacres, comment il peut se transmettre ? Il ne se transmet pas forcément par les mots. Vous nous expliquez que lorsque vous êtes enfant, vous faites un cauchemar très précis, oui. Et en fait, oui. Il renvoie à ce qui est arrivé à votre père, oui. Lorsqu'il s'est évadé d'une maison d'enfant. Vous, oui. Pouvez nous raconter,
oui,
ça,
oui,
Éric,
oui, tout
Fellmann
à fait. C'est pas simplement que j'ai fait un cauchemar, c'est que c'était un cauchemar absolument récurrent quand, ouais, j'étais enfant. C'était un cauchemar qui revenait vraiment très régulièrement, où j'étais pourchassé par des gens que j'appelais les méchants, avec mon langage d'enfant, et qui voulaient me tuer. Ils voulaient me tuer. Et donc, à chaque fois, je trouvais toujours la même technique pour échapper à cette menace mortelle, c'était de faire le mort. Je faisais le mort pour survivre. Et ça, c'était quand j'étais enfant. Et bien des années plus tard, c'est-à-dire quand j'étais déjà peut-être 17 ans, ou 18 ans, ou 16 ans, mon père m'a raconté qu'une fois, il s'était évadé d'une maison d'enfant, qu'il était retourné dans l'appartement familial de Belleville, qu'il avait cassé les scellés, parce qu'il voulait fuir une possible rafle.
Ouais.
Et à un moment, il y a des gens qui sont rentrés dans l'appartement parce que les scellés avaient été cassés, sans doute que c'était la police, et lui était terrorisé, et il s'est caché sous le lit de ses parents, et il a fait le mort, c'est-à-dire il s'est retenu quasiment de respirer, quoi, pour... Et ça lui a sauvé la vie.
Comme vous, dans vos cauchemars, plusieurs dizaines d'années plus tard.
Exactement, c'est fou. C'est, je crois, ce qu'on appelle l'épigénétique, mais oui, ça parle de ça, et je pense que ça peut parler à plein de gens, ça.
La transmission de la mémoire, Raphaël Sigal, c'est au cœur de votre récit.
Tout à fait, bon, c'est des scènes également que j'ai vécues. C'est vrai que sous les mots, il y a les silences, il y a l'oubli, il y a les cauchemars, il y a les rêves, il y a les désirs, il y a les gestes, il y a les corps également qui sont pris par ça. Et ça me frappe parce qu'en ce moment, je travaille, c'est le tout début, à un documentaire avec des survivants de la Shoah auprès de l'association Lozé, qui ont entre 85 et 98 ans. Mmh. Et on voit bien à quel point ils sont eux-mêmes restés sur le lieu de leur trauma et à quel point il y a toujours, malgré le grand âge, ce besoin de transmission qui se fait ressentir actuellement.
Vous écrivez, Raphaël Cigale, dès le début de votre livre, « Je grandis dans une famille sans histoire », une famille où l'oubli introduit pudiquement des voiles et des écrans de toutes formes et de toutes tailles, des petits et des gros secrets, des mots pour d'autres, des glissades de sens qui se transmettent, sous le manteau, de génération en génération, d'une langue à l'autre. L'une de ces langues, c'est le yiddish.
Tout à fait. Moi, alors, mes quatre grands-parents, il n'y en a aucun dont la langue maternelle est le français. C'est-à-dire qu'ils ont grandi soit en allemand, soit en yiddish. Et effectivement, c'était très important de faire sonner cette langue, qui est une langue qui a malheureusement énormément disparu durant la Shoah, et de faire résonner, par exemple, les spécialités yiddish que mes grands-parents mangeaient et qu'on mange toujours à table. Et j'ai moi-même étudié le yiddish lorsque j'étais au début de mes études en littérature. Et c'était très important aussi d'introduire cette langue qui était la langue maternelle de mes grands-parents.
Mais votre grand-mère a dû gommer cet accent, vous racontez ça aussi.
Tout à fait.
Pour survivre.
Ma grand-mère était allemande, elle, donc elle parlait allemand. Et effectivement, rétrospectivement, lorsque j'ai un peu reconstruit son histoire mentalement, je me suis dit, elle n'avait aucun accent allemand lorsqu'elle parlait le français. Et je me suis dit qu'effectivement, lorsqu'elle est venue se cacher en France, elle a dû faire taire la langue allemande et que un accent allemand aurait trahi son origine et que finalement, il fallait absolument gommer cet accent pour pouvoir survivre.
Eric Feldman, vous prenez beaucoup de plaisir sur scène à jouer votre grand-père avec oui, l'accent yiddish.
Absolument, oui, tout à fait. Oui, bah, parce que c'était une langue magnifique. Et puis c'est vrai que tous les juifs d'origine ashkénaze ont eu des parents ou des grands-parents qui avaient un accent comme ça, comme on disait, à couper au couteau, quoi. Et c'est un accent absolument magnifique. Alors effectivement, à un moment, je m'amuse à parler avec cet accent Et oui, mais je dois dire que je cite beaucoup un grand écrivain, Isaac Bashevis Singer, qui avait dit un jour, et je le cite dans le spectacle, « Si un temps vient où la langue et la culture yiddish disparaissent, alors Hitler aura gagné, non seulement physiquement, mais spirituellement. »
Donc il faut transmettre ce que vous faites tous les deux. Vous espérez toucher les jeunes, Eric Feldman, mais vous partagez l'un de vos rêves. Dans l'un de vos rêves, vous êtes dans une salle de classe, il y a une prof d'histoire qui veut parler de la Shoah à ses élèves, et vous lui dites « Laisse tomber, il chie la Shoah ». Les élèves chient la Shoah, Eric Feldman.
Alors ça, c'était dans mon rêve, vraiment. Ouais. C'est ce que je lui disais dans mon rêve, mais au réveil, c'est ce que j'explique. Oui, sans doute que, pas tous, bien sûr, mais l'image est un peu forte, mais c'est il y a longtemps, je pense, pour les élèves. Et je comprends que pour eux, c'est comme je dis, c'est peut-être comme pour moi la guerre de 100 ans, c'est il y a longtemps et qu'ils ont d'autres préoccupations aujourd'hui et que peut-être qu'en termes d'années, ils se sentent plus concernés par la fin du monde que par la Shoah, ce qui est bien compréhensible. Mais j'ai rencontré plein de jeunes qui sont extrêmement touchés par le spectacle et je me suis rendu compte que pour beaucoup, c'était très, très important.
Je peux citer un extrait de votre spectacle, Eric Feldman, pour conclure. Une blague. Simon demande à Shlomo. Shlomo, mon ami, comment vas-tu? En un mot. En un mot, bien. Et en deux mots, pas bien. Voilà, c'est dans votre spectacle. Ça résume beaucoup de choses. Ne jouez pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie, Eric Feldman. C'est au théâtre du Petit Saint-Martin à Paris jusqu'au 26 octobre. Allez-y. Raphaël Cigale, Géographie de l'oubli. C'est aux éditions Robert Laffont. Je vous le conseille également. Merci infiniment à tous les deux d'avoir accepté cette rencontre.
Beaucoup.
Peut-être le début d'un long dialogue entre
absolument.
Tous les deux.
Tout à fait.
On le souhaite. 13h47 sur Inter.
Merci.
Une semaine dans leur vie. C'est notre feuilleton. Nous passons cette semaine à Leeward, dans le Nord, où l'on perpétue la mémoire de la mine. Le centre historique minier y raconte l'histoire de l'extraction du charbon en France, mais vu avec le point de vue du 21e siècle, avec celui du réchauffement climatique. Et pour ce premier épisode, Sandy Dauphin retrouve Michel Petit, ancien mineur, devenu guide pendant plus de 20 ans.
Alors, chaque mineur avait un numéro. C'était le numéro de son vestiaire. Ici, 1000 mineurs travaillaient. On arrivait au bilan civil, considéré que c'est mon vestiaire.
On tire sur la corde.
Hop, je descends mon vestiaire, hop, je m'habille. Quand je suis habillé, je remets tous mes effets civils sur les crochets. Je remonte le crochet.
Pour gagner de la place, on les pendait.
Voilà, gain de place. Cette fameuse solde est pendue. On se rendait à la lampisterie, prendre sa lampe, et ensuite, on allait au puits. Michel Petit. Alors, j'ai commencé en 1966, jusqu'en 1989, 23 années. J'ai eu 15 ans le 7 septembre, le 26 septembre, j'étais au fond.
Vous vous souvenez du premier jour?
Oh là 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 là. Je vous parle, c'est impressionnant. Hein, hop, hop, hop. Rien que la cage. Et pourtant, au puits de mine à Lemay, comme ici, il y a des lois, ça n'allait pas vite. Hein. Aïe, si vous saviez, les conditions, c'était la poussière. Ils ont tenté tout un tas de moyens pour essayer de nous protéger.
De la poussière.
Voilà. Alors après, il faut arriver à comprendre. Au plus que vous fournissez des efforts, au plus que vous avez besoin de respirer. Les masques qu'ils nous fournissaient, il y avait un système de ventilation. Alors, en moins de deux, les filtres étaient bouchés. On avait un taux d'humidité qui en arrivait pratiquement à saturation. Donc, la poussière et l'humidité, les filtres étaient bouchés. On a aussi beaucoup utilisé l'eau. On travaillait continuellement dans la flotte et dans la gadoue. Ouais.
Et ça a eu un impact sur votre santé?
Santé, oui. J'ai été reconnu silicosé en 2017, 10%. En 2020, 70%. Alors que j'avais cessé mon activité, au fond, en 89.
Vous vous souvenez, vous avez vécu la fermeture des mines?
Ah oui, ça a été... C'est une catastrophe! Vous imaginez, du jour au lendemain, on vous annonce qu'on va fermer. À l'époque, à Robert, il y avait 3000 ouvriers. Hein. C'est pas une petite affaire, hein, quand on annonce qu'on va fermer. Pour arriver à comprendre cela, il faut arriver à comprendre les corons. C'est un milieu à part. Donc, tout le monde se connaît. Pour les gens qui ne sont pas du coin, ils ont du mal à s'imaginer. C'est vrai qu'on a remonté la France et tout. Mais maintenant, avec le recul, on a été reconnus quand même des grands pollueurs. Hein. C'est comme l'amiante, c'est le même. Il est temps qu'on arrête tout ça. Il y a combien de gens qui ont souffert? Nous, en tant qu'anciens mineurs, on arrive à le comprendre. Il fut un temps où on en avait besoin. Maintenant, avec les moyens qu'on a l'ordre d'aujourd'hui, je suis conscient qu'on n'a plus besoin d'aller chercher du charbon pour chauffer. Ça a été un épisode. On l'a vécu. J'ai aimé mon métier. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je comprends qu'on ferme les puits de mine. On a fait mourir des gens. Combien de gens sont morts?
Dans les accidents de la mine.
Ben oui.
Sandy Dauphin à Le Ward pour ce feuilleton.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le lundi 13h51. Cécilia Arbona nous parle d'un lieu qui fait l'actualité. Aujourd'hui avec vous, Cécilia, nous retournons dans l'Aude un mois après l'incendie qui a ravagé le massif des Corbières. Vous nous parlez de l'abbaye de la Grâce, qui a été épargnée par les flammes.
Une abbaye bénédictine du Moyen-Âge, dirigée depuis 2004 par 38 chanoines traditionalistes qui mènent des travaux de restauration pour embellir le monument.
Et cette communauté religieuse se porte volontaire pour remettre en état le massif forestier et la garrigue.
Depuis une semaine, le père Dominique va de village en village au volant de sa Renault Scénic à la rencontre des viticulteurs, éleveurs, propriétaires de gîtes pour proposer de l'aide. Nous mettons à disposition un camion, un tracteur, une remorque, des outils de jardin. Bien sûr, poursuit le prieur de l'abbaye, nous ne sommes pas tous des as du bricolage. Je ne vais pas demander au premier frère venu de manier une tronçonneuse. Nous sommes prudents. Mais quand même, nous sommes des hommes de bonne volonté, malgré notre apparence.
On les voit arriver de loin, c'est ça?
Exactement. Les chanoines de la Grâce sont toujours vêtus de leur soutane impeccable, blanche, été comme hiver. Alors imaginez cette apparition des silhouettes immaculées qui marchent sur des amas de branchages noircis. Alors pour déblayer et nettoyer, précise le père Dominique, nous avons des pantalons renforcés et des soutanes brunes qui ne craignent ni les taches ni les accros.
Et comment est reçue cette aide par la population?
Eh bien derrière les remerciements polis, certains élus et riverains sont mal à l'aise ou franchement réfractaires à ces mains tendues. Une adhérente d'un club de randonnée rappelle que le fondateur de la communauté, le père Vladimir, a été reconnu coupable d'abus de pouvoir et même d'abus sexuels. Des habitants s'interrogent aussi sur les personnalités liées à l'extrême droite, vues à la Grâce, comme le maire de Béziers, Robert Ménard, ou bien encore le cardinal guinéen Robert Sarah, ultra-conservateur, habitué des lieux. Il était encore là cet été.
Toujours est-il que le mois dernier, les chanoines ont ouvert leurs portes aux pompiers.
Pendant 3 jours et 3 nuits, 150 soldats du feu ont reçu le gîte et le couvert au réfectoire et dans les dortoirs de l'abbaye. Des packs d'eau, des thermos de café, des marmites de pâtes en forme de papillon. Vous savez, Jérôme, les farfales ont été distribués. Sur le compte Facebook des chanoines, on peut lire ce message des pompiers du Tarn. Merci de nous avoir hébergés. Nous sommes très reconnaissants. Eh bien, c'est nous qui les remercions aujourd'hui, se réjouit le père Dominique. Ils ont protégé nos 1200 ans d'histoire.
Et cette semaine, la vie de l'abbaye reprend son cours?
À partir de jeudi, retour des touristes, des visiteurs. Les réservations sont ouvertes pour les séjours destinés aux pèlerins, aux retraitants, croyants ou pas, en quête de sens et de silence. Et puis comme à Matignon, c'est une rentrée de changement, plaisante le père Dominique. Après 11 ans de mandat de Premier ministre, je passe la main, annonce-t-il tout content. La charge est lourde, je suis fatigué.
Là-bas aussi, on parle de Premier ministre.
Oui, insiste le père Dominique, c'est ainsi que les frères le surnomment. Et vous voyez, conclut-il, la différence entre François Bayrou et moi. Eh bien, moi, je connais le nom de mon successeur. Il s'appelle le père Hilaire.
Oui, puis 11 ans de mandat, c'est un peu plus long que le mandat de François Bayrou, même si on verra ce qui se passe cet après-midi à l'Assemblée nationale. Merci, Cécilia Arbona, de C'est la France. Ah, c'est une chanson, c'est le comédien Vincent Elbaz que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Vincent Elbaz qu'on pourra voir ce mercredi au cinéma dans Une place pour Pierrot d'Hélène Médigue aux côtés de Marie Gillin et Grégory Gadebois. Et c'est de la chanson Hey Joe qu'il a souhaité parler, la version de Jimi Hendrix, un génie qu'il a découvert grâce à ses parents, à son père notamment.
Mon père avait découvert Hendrix lors de son premier concert en France à Polytechnique. Donc il m'avait raconté cette histoire passionnante, enfin moi que je trouvais géniale. Il marchait dans la rue, il entend un bruit de guitare électrique. Il n'était pas du tout élève à Polytechnique, c'était à peu près l'opposé d'un élève à Polytechnique, qui, on va dire, qui traînait dans la rue. Et il assiste à un jeune sur scène qui joue de la guitare, c'était Hendrix. Et donc il voit ce type jouer avec les dents, s'allonger par terre devant des étudiants à Polytechnique complètement figés. Figés, estomaqués, donc il court... dans son quartier, il traverse la Seine. À l'époque, il habitait dans le Marais, donc il court prévenir ses copains, qui est un fou qui joue de la guitare. Et ils reviennent et ils assistent à ce concert. Donc il me l'a raconté comme un truc complètement épique. Voilà, donc ça fait partie de la petite mythologie familiale, on va dire.
Donc vos parents vous font découvrir Jimi Hendrix en vous racontant cette histoire et ce premier concert auquel assiste votre père. Après, c'est une musique qui a bercé un peu votre jeunesse.
J'écoutais Hey Joe pendant des années en boucle. J'étais fasciné par lui. Hey Joe, where you going with that gun of yours? Hey Joe, I said where you going with that gun in your hand? I'm going out to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man.
Alors Frédéric, ce morceau de Jimi Hendrix, c'est donc une reprise, année de sortie 1966.
C'est la version la plus connue de cette chanson qui est également liée à un souvenir de scène pour Vincent Elbaz.
À l'époque, j'étais au cours Florent et on monte une pièce de Sam Shepard qui s'appelle L'Ouest le Vrai. Et mon personnage doit à un moment dans la pièce avoir un accès de violence et détruire à coups de club de golf une machine à écrire. Et mon copain qui faisait la mise en scène a eu cette idée de mettre cette musique d'Hendrix sur ce moment. Donc j'avais un moment en scène comme ça, sur cette musique d'Hendrix où je détruisais une machine à écrire dans une rage, avec une violence, etc. Donc ça a été très jouissif, je ne peux pas vous le cacher. J'ai vicieusement adoré ce moment. Et puis je fais un film qui s'appelle Le Péril Jeune. Et pareil, on retombe dans les années 70 avec cette BO géniale du film de Clapiche. Donc la BO du Péril Jeune, là, ça a été le summum de ma carrière. J'ai commencé très fort.
Au cours Florent, c'était votre première expérience sur scène ?
Oui, oui, c'était tout à fait la première pièce que j'ai jouée, qu'on a essayé après de monter, de jouer ailleurs. Et donc ce moment était extraordinaire à vivre, à jouer.
Mais est-ce que ça veut dire que vous avez cassé plusieurs machines à écrire ?
Oui, évidemment.
Yes,
vous diriez que Jimi Hendrix, et cette chanson en particulier, finalement, elle a accompagné une bonne partie de votre vie?
Oui, parce que je l'ai écoutée au moins pendant 15 ans, cette chanson. Jusqu'à Après le péril jeune, quoi, en gros, parce qu'il faisait partie de la BO du film. Donc oui, elle m'a accompagné pendant longtemps. Et à chaque fois que je l'écoute, j'ai ce souvenir très fort de cette pièce de théâtre qu'on a montée. Je me replonge là-dedans.
Et ça veut dire que ce titre-là de Jimi Hendrix, il vous ramène à vos 20 ans?
Oui.
Il vous manque, vos 20 ans?
Non, 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 il ne me manque pas. Non, il me nourrit. C'est-à-dire quand j'ai des problèmes dans la vie, des choses difficiles à surmonter, je vais puiser là-bas. Je vais puiser dans ces souvenirs. D'ailleurs, je remonte bien plus tôt que 20 ans. En réalité, je vais puiser dans mon enfance. C'est là où je cherche la ressource pour surmonter les problèmes à l'âge adulte. Je vais aller puiser dans des souvenirs de bonheur intense. Donc, mes 20 ans, c'était beaucoup de bonheur. Et mon enfance aussi, oui.
C'est pas le cas de tout le monde.
C'est pas le cas de tout le monde, oui, tout à fait. Oui, j'ai eu de la chance. J'ai eu une petite enfance très heureuse. Donc, je suis indestructible grâce à ça.
Hey Joe, Jimi Hendrix. C'était donc, Frédéric, le choix de Vincent Elbaz.
Vincent Elbaz, à l'affiche du film Une place pour Pierrot, qui sort en salle mercredi.
Merci Frédéric. À suivre, le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan, 1789, les États généraux ont-ils déclenché la révolution?